جوانها در continuer de nous intéresser à la spiritualité et aux bienfaits de Dieu, à une époque où la jeunesse du monde doit affronter le matérialisme, où les jeunes doivent se prévaloir contre l'agitation. Les jeunes ne savent pas toujours comment penser.
Les minorités religieuses qui ne sont pas chiites, qui peuvent être sunnites en ce qui concerne l'islam, mais qui peuvent être aussi chrétiennes, qui peuvent être juives, est-ce qu'elles sont respectées?
Pas du tout, même baroïtes. Il y a des baroïtes en Iran qui sont exécutés, en Iran, c'est la peine de mort pour quelqu'un qui est baroïte, par exemple. Mais donc, même les sunnites, ils ont peur de montrer qu'ils sont sunnites. Ils occultent leur foi en Iran. Les chrétiens acceptent, ils sont dans la société, mais ils sont très prudents. Ils sont libres à condition qu'ils ne disent pas que Jésus-Christ est fils de Dieu, de Dieu, parce que c'est un crime en Iran. Il ne faut pas parler de ça.
Ça veut dire qu'il n'y a pas de mariage mixte?
Ah, si vous mariez avec un musulman, quoi qu'il soit, il faut devenir musulman.
Je vous rappelle que nous sommes avec Shiva Firouzi, iranienne, et coordinatrice pédagogique au Centre de droit pénal international et d'analyse des conflits à l'Université des sciences sociales de Toulouse. Alors, à l'occasion des manifestations donc, qui sont passées à Téhéran, on a vu apparaître la contradiction donc, du pouvoir, et particulièrement sur la souveraineté. Hein, le pouvoir en Iran, c'est à la fois la souveraineté de Dieu, mais aussi, puisque c'est une république, la souveraineté du peuple. Comment on arrive à fonctionner avec une telle contradiction?
Oui, la contradiction est exactement celle-là, parce qu'il y a deux types de souveraineté. Souveraineté absolue, dans la constitution iranienne, qu'on voit, la souveraineté absolue appartient à Dieu. Et deuxième souveraineté, c'est souveraineté relative, ça appartient au peuple. Mais le peuple ne peut pas l'exercer. Il faut qu'il choisisse un chef suprême, un intermédiaire, c'est un peuple, on peut dire, sous tutelle. Ils peuvent pas décider pour eux-mêmes. Et ce qui est vraiment un point faible dans la constitution iranienne.
Dans les grandes villes, comme Téhéran,
Isfahan,
ce n'est pas très compliqué. Généralement, les garçons et les filles établissent une relation grâce au Bluetooth de leur téléphone. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. Les garçons récupèrent le numéro de téléphone des filles avec le Bluetooth de leur téléphone. C'est assez facile. À l'université, dans les parcs, ils se rencontrent. C'est facile de nos jours. C'est facile.
Mais vous devez trouver un endroit très tranquille pour rencontrer votre petite amie.
Oui, bien sûr. Car s'il vous attrape, s'il vous trouve, cela coûte très cher. Et généralement, la plupart des gens n'ont pas de travail. Ils n'ont pas d'argent pour payer. Et ils se retrouvent en prison pour 1 an ou 6 mois. Cela dépend du crime, enfin, ce qu'ils appellent un crime.
Est-ce que vous pensez que l'Iran peut changer et que, voire même, de façon peut-être temporaire, on puisse avoir une république islamique modérée?
République islamique modérée, ça me blesse un petit peu, parce que pour moi, ça n'existe pas.
Mais il y a des jeunes que j'ai rencontrés la dernière fois à l'occasion de la manifestation qui eux, semblent pas défavorables à ça.
Oui, mais parce que les manifestants que vous avez vus, ce sont des étudiants de groupes islamiques. Donc, ils défendent le principe de république islamique, c'est normal. Mais après, vous n'avez pas rencontré les autres jeunes en Iran qui ne veulent pas ça. On ne veut pas la république islamique. Pourquoi pas la démocratie? Pourquoi la république islamique? Pour moi, l'islam et la démocratie, tel islam en Iran, ce n'est pas très compatible. Nous, on a passé... moi, je suis enfant de République islamique. Si vous me dites ça, vraiment... moi, je ne suis pas positive sur ce point-là. Et je suis enfant de la guerre, j'ai vu tout. Mais la République islamique ne me rapporte rien. Je ne crois pas de changement avec le même principe. Je ne veux pas ça, moi.
Les nouveaux officiers prêtent serment de fidélité à Dieu et au Coran. Ils s'engagent à défendre la République islamique et concluent « Je fais le sacrifice de ma vie pour le triomphe de la loi divine dans le monde ». Les 6 premiers de la promotion reçoivent ensuite un exemplaire du Coran des mains du président Khamenei. La cérémonie s'achève par le défilé après le cri repris 3 fois de « Dieu est grand, abat l'impérialisme et mort à l'Amérique ». La bannière étoilée américaine dessinée sur le sol en face de la tribune présidentielle est d'ailleurs foulée ostensiblement par les participants au défilé.
On a parlé de l'anti-occidentalisme, très répandu apparemment dans l'Orient et aussi au sein du Moyen-Orient. Mais il y a une contradiction là aussi en Iran, c'est que l'Iran veut apparaître comme une puissance dans le concert des nations, tout en entretenant cet anti-occidentalisme-là. Comment vous comprenez cette contradiction et quel est le jeu du pouvoir en place sur ces questions-là?
Cette contradiction n'est pas venue par hasard. Et si vous voyez dans l'histoire, le pétrole, vraiment, c'était un enjeu de grands puissants. Et toujours, il y avait le conflit, et il y avait des problèmes en Iran par rapport au pétrole. On était centre de l'intérêt de l'Amérique et l'Angleterre. Et il y avait des mouvements, le mouvement, le coup d'État de Mossadegh. Et on a passé tout ça. C'est pour ça que le peuple est devenu un petit peu traditionniste et sont devenus anti-occidentaux. Ça se comprend, mais malheureusement, ils croient qu'en appuyant sur l'islam, ils peuvent résoudre tous les problèmes, ce qui n'a pas eu le résultat. Actuellement, on voit qu'après 30 ans de révolution islamique, et de dire tout le temps les slogans contre les puissants, vraiment, ce n'était pas une bonne stratégie non plus. L'Occident, il y a un problème entre l'Occident et l'Orient, et il y a un grand fossé entre eux que maintenant c'est le temps de résoudre, je crois. Et jusqu'à quand on veut dire que l'Orient c'est notre planète et l'Occident c'est notre planète? Toujours on est dans cette histoire, qui nous sommes, qui ils sont. Toujours on voit sur la culture, tu vois que c'est deux mondes différents, tu vois sur la plupart des notions, il y a d'autres façons de regard, d'autres visions. Et ce qu'on voit, c'est vraiment culturel. Une fois de plus encore, c'est la responsabilité des intellectuels. L'État profite de ça et essaye de jouer avec le sentiment des gens qui savent même pas qu'est-ce qui se passe en Occident, qui sont jamais venus ici. Ils savent pas leur point de vue. Ils croient que l'Occident est leur ennemi. C'est pas seulement chez les gens religieux, c'est les gens qui n'ont même pas les idées religieuses. Ça crée, ça je vois, je parle avec la plupart des Iraniens qui parlent de cette souffrance, de différence entre eux avec, et l'Occident.
Ahmadinejad souffrait d'un manque de reconnaissance politique. Pour se rendre important, il a radicalisé son discours sur des thèmes liés à la politique étrangère. C'est comme ça qu'il a commencé à exister.
C'est en attaquant Israël et la mémoire de l'Holocauste qu'il a fait le plus parler de lui.
Le régime sioniste est un arbre pourri qui cassera avec la tempête. Que vous le vouliez ou non, le régime sioniste va tomber.
Alors, Ahmadinejad s'est fait une sale réputation sur le plan international, notamment à cause de son antisémitisme. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est répandu en Iran?
Pour vraiment, est-ce qu'on peut dire que c'est majoritaire? Je ne sais pas vraiment. Parce qu'il ne faut pas oublier cette réalité d'antisémitisme partout dans le monde aussi. Dans le monde aussi, chez les Iraniens. Chez les Iraniens, moi, quand j'étais petite, à l'école, ils m'ont dit Hitler, c'était quelqu'un très, très important, c'était un homme bien, et il défendait, parce que Hitler, il ne touchait pas la race aryenne, et les Iraniens sont race aryenne, donc et on n'avait pas le même sentiment que quand je suis venue en Europe, j'ai compris que Hitler, c'était vraiment quelqu'un malveux, qu'il a tué tout le monde, qui a tué les juifs, le peuple juif. Le sentiment là-bas, c'est autre chose. Et parce que si vous voulez, il te montre pas la réalité. Donc le peuple, il accepte. Si Ahmadinejad parle de ça, et le peuple, il croit que quand même, c'est quelqu'un courageux. Je parle ici avec mes amis maghrébins, ils disent que c'est la seule personne qui arrive faire face devant l'Occident, qui arrive faire face devant les Juifs. Les Juifs sont très, très forts dans le monde. Mais... Pourtant, vous savez très bien qu'un politicien ne doit pas parler comme ça. C'est un manque de stratégie, même s'il le croit. Et son point de vue, ce n'est pas le point de vue de tout le monde. Parce que nous, maintenant, le peuple a pris la conscience de faire la recherche sur l'histoire de Juifs. Et la plus ancienne communauté de juifs, c'était en Iran. Et Cyrus le Grand a promis au peuple juif de les aider. Et quand même, les juifs étaient bienvenus en Iran. Mais maintenant, avec tout ce qui se passe, on est devenu premier ennemi des juifs. Ce qui dans notre, je crois que le peuple iranien, vraiment, il ne le souhaite pas.
En principe, l'État de Bavière, détenteur du copyright, interdit la publication du livre à l'étranger. Cela n'empêche pas Mein Kampf de se vendre à travers la planète, partout où ce symbole du mal fascine. Faut-il s'étonner qu'en Égypte, au Liban, en Syrie ou en Palestine, Mein Kampf se vende depuis longtemps? En 2005, en Turquie, l'État de Bavière a même dû intervenir pour faire cesser la vente du livre. Cette année-là, de nouvelles éditions de Mein Kampf se sont écoulées à 80 000 exemplaires. Un best-seller à l'échelle de ce pays.
J'ai pas l'impression que vous soyez très très optimiste pour l'avenir.
Non, pas du tout. Pas du tout. En tant qu'un enfant de révolution islamique, je suis pas du tout optimiste. Parce que je vois sur le plan aussi extérieur comment les pays occidentaux réagissent quand il y avait ce changement, qu'ils ont seulement pris une seule voix de Mujahideen, de peuple, d'opposants qu'on l'accepte pas, la plupart des Iraniens, qu'ils n'ont pas, vraiment, ils n'ont pas montré la réalité, ils n'ont rien fait. On voit que l'Amérique, il voulait sauver l'Irak au nom de démocratie. Ça y est, il le fait. Moi, je ne le souhaite pas pour mon pays qu'il vienne, qu'il détruit tous les, comment dire, tous les monuments qui nous restent encore. Parce qu'après la révolution islamique, même les mullahs, la plupart de notre, ils ont détruit la plupart de notre monument. Il ne reste rien. Mais nous avons besoin d'aide. On n'a pas d'autre choix. On voit même dans les manifestes, les gens qui sont manifestés il y a quelques jours, ils ont montré à la télé qu'ils ont la mission de la part de Sia et Moussa, ce qui n'est pas vrai. On n'a pas d'autre choix. On est là, mais on demande à la communauté internationale de nous aider.
Vous pensez à la communauté internationale et puis plus particulièrement ici en France, particulièrement par exemple les médias, n'ont pas compris que ce mouvement était aussi un mouvement démocratique qui aspirait à un vrai changement radical?
Non, pas du tout. C'est ça le problème. Et comme on est un peuple isolé, ils ne savent pas. Mais déjà, on est centre de l'intérêt de la Russie. La Russie, c'est au profit de la Russie si on reste la République islamique. Ça arrange pour la Russie, ça arrange pour la Chine. Et donc, malheureusement, l'Europe aussi a une politique d'apaisement. Depuis longtemps, l'Europe a perdu son pouvoir. Et donc, ils préfèrent de ne pas entrer dans le... de ne pas parler de droits de l'homme parce qu'il n'a pas ce pouvoir. Soit il n'a pas ce pouvoir, soit vraiment ça n'arrange pas.
La laïcité, c'est le respect pour toutes les opinions et pour toutes les croyances. Quand Jules Ferry a écrit aux instituteurs...
C'est une idéologie fasciste islamiste qui tente de pénétrer les institutions, les infrastructures républicaines. Et ils voudront pouvoir poser politiquement dans l'Europe de demain.
Je sais qu'en ayant le visage voilé, je ne me fais pas draguer par les hommes. Je l'ai fait parce que j'ai envie de me préserver, j'ai envie de préserver ma beauté, spécialement pour mon mari. Je ne l'ai pas fait parce que mon mari me l'a demandé, je l'ai fait de moi-même. Et si je marche sans mon voile sur le visage, il accepte, et avec, il accepte. Voilà, personne ne m'y est obligé.
Le problème de la burqa n'est pas un problème religieux. C'est un problème de liberté, c'est un problème de dignité de la femme. La burqa, ce n'est pas un signe religieux, c'est un signe d'asservissement, c'est un signe d'abaissement. Je veux le dire solennellement. Elle ne sera pas le bienvenu sur le territoire de la République française. Nous ne pouvons pas accepter dans notre pays des femmes prisonnières derrière un grillage, coupé de toute vie sociale.
On parle beaucoup de l'islam en France. Il y a des lois qui ont été votées. Là, il y a un débat qui va s'ouvrir autour de la burqa. Comment vous, en tant qu'iranienne, vous voyez tout ça?
Ça me rend malade. La seule chose que je peux vous dire, c'est ça. Parce que le problème, c'est ça. Un jour, on dit on veut le droit de porter du voile, d'accord. Et le lendemain, ils disent que voilà, on veut maintenant le burqa. Et après, ils demandent la piscine séparée. Et après, l'école séparée. Ça commence par là. Le problème, c'est ça. Si on vient dans un pays, il faut accepter la loi du pays. Quand même, si tout le monde vont, les gens qui vont en Arabie Saoudite, ils sont obligés de porter le voile. Donc, si les gens ils viennent d'ici, il faut accepter la loi d'ici aussi. Après, le burqa, c'est très compliqué. C'est une question de sécurité. Parce qu'il y a des gens qui peuvent faire le crime en se couvrant. C'est vraiment dangereux ce qui se passe. Et quand je vois dans mon pays, on est en train de se battre pour ne pas porter le voile. Et ça, je dis comment on peut résoudre le problème du monde. Parce que d'un côté de la planète, ils nous tuent parce qu'on ne veut pas porter le voile. Et d'un autre côté, ils veulent porter le voile. Ça.
Mais un certain nombre de politiciens français, quand il s'agit de l'islam, sont très 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 frileux. Ils ne sont pas aussi regardants avec la religion catholique parce qu'on a une vieille tradition anticléricale en France. Et puis on est un pays laïque et ça s'est gagné grâce à la force aussi, hein. Mais quand il s'agit de l'islam, bizarrement, on est beaucoup plus frileux.
Je faisais une conférence à l'IOP sur l'insécurité des femmes en Iran et quelqu'un qui m'a posé des questions sur est-ce que vous, personnellement, vous croyez en portée de voile. Je dis, moi, je suis contre portée de voile. Et après, j'ai parlé aussi de questions de l'invasion des Arabes et l'histoire de l'islam, comment il est entré en Iran. Et après, j'étais traitée comme raciste. C'est ça le problème. Dès que tu commences à parler sur l'islam, sur l'invasion des Arabes en Iran, ils te traitent comme le racisme, que ce n'est pas du tout vrai. C'est très délicat à parler. C'est pour ça que les Français ont beaucoup peur. Parce que moi, je peux parler avec même et les prêtres ou les sœurs chrétiennes de dire « j'aime pas votre Bible, j'aime pas votre religion ». J'ai jamais eu peur de dire ça, mais j'ai beaucoup peur quand je dis à un musulman « j'aime pas le Coran » ou « j'aime pas tel chapitre du Coran, j'aime pas ce verset ». Tout de suite, ils me traitent comme occidentalisé ou raciste, anti-arabe. C'est le sujet très sensible.
J'ai déjà dit ça une fois, si vous vous rappelez, dans une conférence. Oui, on les appelle même les ninjas. Wallah, dans les écoles, quelqu'un les appelle les ninjas. Wallah, l'adim, si jamais tu as le malheur de dire ça, tu es kafir billah direct. Parce que celle que tu viens de traiter de ninja, eh bien, elle ressemble, au moins par l'aspect extérieur, à la mère des croyants. Et à nos mères aussi. Parce qu'il n'y a pas que Aïcha, il y a d'autres aussi. Dis-leur, jazakoum Allah, c'est bien. Et invoquer Allah pour moi pour qu'un jour ou l'autre j'ouvre les yeux. Mais n'allez jamais dans le domaine de la critique. Parce que c'est important. C'est dans le Coran, c'est demandé.
Oh. Voilà, donc on a bien compris, c'est dans le Coran, c'est demandé, il ne vous reste plus qu'à vous soumettre. Merci en tout cas à Shiva Firoussi, merci pour sa disponibilité, pour sa franchise et aussi pour son abnégation à faire la lumière sur la bêtise des obscurantistes de tous bords. Merci encore à Shiva Firoussi.